d'ici. Et d'ailleurs.
D'ici et d'ailleurs.
La revue culturelle
de Léo Géo.
Nous prenons la direction de la ville de Detroit aux États-Unis, on peut dire Détroit d'ailleurs, car le mot vient du français, pour décrire l'emplacement de cette cité qui s'est développée tout contre les Grands Lacs dans le Midwest américain. Et c'est dans cette capitale de l'industrie automobile, ville en déclin depuis les années 50 et même déclarée en faillite en 2013, qu'Andrei Tchaklev, ici présent, a posé ses caméras pour un film documentaire intitulé « Detroiters », visible sur tous les bons écrans depuis le 4 mai. Ambiance.
Je suis Jérôme Cavanaugh, maire de Détroit. Vous allez découvrir la fabuleuse histoire d'une ville et de ses habitants.
C'est juste une époque différente de celle où j'ai grandi. À l'époque, même si le système nous exploitait, ça fonctionnait. Le capitalisme fonctionnait. Il n'était pas juste, mais il fonctionnait.
Détroit était la capitale mondiale de l'automobile à l'époque. Tellement de gens travaillaient dans les usines, à la chaîne, en faisant des gestes répétitifs, en rythme. Et ça s'est transformé en musique. Et la Motown est née.
Et bien sûr, l'histoire de l'Église est politique. C'est comme ce que tu fais à présent, apprendre aux gens qu'ils ont le droit de se battre et même l'obligation de se battre.
Dans les années 60, c'était déjà les mêmes luttes que les nôtres aujourd'hui. Et ils disent qu'on est égaux. Ils disent « rétablissons la grandeur de l'Amérique » et on dirait presque un message codé pour dire « rétablissons l'esclavage ».
Vous êtes dans le film Detroiters, c'était la bande-annonce, alors on y parle de la Motown, du travail à la chaîne, de la puissance politique des églises, la situation actuelle des Noirs, autant de sujets donc que déroule ce film d'Andrei Tchaklev. Bonjour, bienvenue et bravo pour ce film qui m'a beaucoup intéressé, dans lequel je pense que de nombreux auditeurs et auditrices se retrouveront, évidemment en transposant les situations, mais le travail à la chaîne, la fermeture des usines, le sentiment d'avoir donné sa force de travail pour survivre, bien sûr, mais de s'y être usé et d'avoir dû arrêter sans reconnaissance, ça existe un petit peu partout dans le système actuel.
Oui, c'est clair. Et c'est la désindustrialisation qu'on voit partout en France. Moi, j'ai fait un film à Calais avant, où c'était déjà des problématiques.
C'était l'exil et le royaume.
L'exil et le royaume, qui était plus du coup sur la fermeture du camp de Sandgate, donc que devenaient les migrants dans ce territoire, mais qui était un territoire désindustrialisé. Détroit, c'est à l'échelle d'une ville mythologique et géante, et qui a perdu les deux tiers de ses habitants, et qu'on a laissé se détruire sans rien faire. Donc il y a quelque chose de fou. En plus, à Détroit.
Alors, si on doit redécrire tout un siècle d'évolution économique, j'évoquais les années 50, mais il y a une période glorieuse de développement de l'industrie automobile. Donc là, on est quoi, dans les années 30, du début du siècle aux années 30.
Voilà, l'entre-deux-guerres étant l'espèce de pic avec Henry Ford qui structure tout ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, Détroit est la ville la plus riche au monde. C'est fantastique ce qui se passe là-bas. Et il en reste des traces géniales en architecture, en maison. Et la structure de la ville s'est créée là-dessus aussi, à ce moment-là, de faire une ville pour la voiture, par exemple. Donc d'avoir des autoroutes dans la ville, d'avoir détruire le tramway. Il y avait un tramway avant, ils l'ont complètement détruit pour que l'idée de Ford que mes employés puissent acheter ma voiture, pour qu'après ils puissent l'utiliser aussi. Donc on va créer cette ville hallucinante et gigantesque sur la voiture. tout est voiture.
Alors, j'ai découvert que d'ailleurs, effectivement, souvent les voitures portent le nom de leurs créateurs ou des patrons des industries comme la Pontiac. C'est ça, la Cadillac d'abord. La Cadillac, ça, c'est le fondateur français.
Oui, Pontiac, c'était un chef indien. Oui. Donc, ils ont repris un peu des choses locales, des grandes figures locales. Et effectivement, Cadillac, c'est un Bordelais, je pense. Il y a un petit village à côté. Il y a Pontiac qui était un grand chef. Alors, c'est toujours ambigu quand les Américains reprennent des chefs, des noms de chefs indiens, comme ils ont appelé Ben Laden Geronimo. Donc, il y a quelque chose de terrible dans la construction des États-Unis, dans le génocide indien, clairement, qui est caché, puis hop, qui ressurgit dans une voiture comme ça, de luxe un peu, et qu'on glorifie, alors que c'est...
Les problèmes commencent quoi, dans les années 50. Alors c'est une ville qui va voir arriver de nombreux Noirs du Sud. D'ailleurs, dans le film, il y a un des protagonistes qui dit à l'époque, les deux questions qu'on se posait quand on se rencontrait, c'était dans quelle usine tu travailles et tu viens d'où, dans le sens où tu viens forcément du Sud, en quittant donc ce Sud raciste aussi. On est avant d'ailleurs, on est dans les années 50, donc avant l'obtention des droits civiques.
Ouais. Mmh. C'est ça, on est entre la sortie de l'esclavagisme, mais on est en plein dans la ségrégation. Et donc ils avaient ce rêve, et on leur a vendu ce rêve aussi de « maintenant vous êtes émancipés ». Ce qui n'était pas totalement vrai, parce qu'ils avaient un statut très particulier dans le Sud, de sharecroppers, c'est des métayers, quoi. Donc la vie n'était vraiment pas, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et on leur disait, et Henry Ford a dit ça, venez à Détroit, on vous embauchera à $5 par jour, ce qui était un salaire hallucinant pour l'époque. Et lui, il les a utilisés en fait pour faire une force, comme ça, pour casser les syndicats, puisque c'était une ville d'immigration, Détroit, ça toujours, mais c'était des Polonais, des Allemands, il y a eu des vagues comme ça, et qui ont toujours été victimes de racisme avant qu'elles s'intègrent et que la nouvelle vague se reprenne le racisme dans la tête, et donc les Afro-Américains étant les derniers dans ces vagues successives. Et donc, son idée, c'était de diviser le prolétariat, en fait. Et donc, en ramenant une nouvelle couche.
Dans Neo Geo, toujours en musique, on va écouter un premier. Je vous ai demandé de choisir un certain nombre de morceaux. Et on va écouter un premier morceau qui pourrait donc correspondre à cette période. Vous allez nous le commenter, Johnny Hooker.
C'est son tout premier enregistrement, en fait. Et donc, lui, il avait vécu cette histoire. Il est venu du Sud, il est venu travailler à Détroit. Et puis, il découvre parce que Détroit, c'est une ville aussi dingue. Hein, c'est génial comme ville. Il y a une vie nocturne et musicale et des clubs. Et il découvre ça, et puis il se met à faire de la musique. Et il devient une des nombreuses légendes musicales de Détroit.
Yeah, mama, she didn't love me. She had to stay out all night long. Oh, Lord. Well, my mama didn't love me. She had to stay out all night long. I didn't care if she didn't lie. I was boogie woogie in her house. When I first come to town, people, I was walking down Hastings Street. I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I decided I'd drop in there that night. And when I got there, I said, yes, people, yes, they were really having a ball. Yes, I know. Boogie, chula. Thank you.
laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good, and I went on boogie woogie just the same. Yeah.
Sur Nova, à l'instant, un boogie chillin de John Lee Hooker, qui donc a vécu à Détroit, n'est-ce pas, André ?
Ouais, et dans cette chanson, d'ailleurs, il raconte une rue de Détroit où il y avait plein de clubs. Il raconte qu'après le travail, il va là-bas. Et c'était le Black Bottom, c'était le ghetto, quoi, le ghetto noir de l'époque, et qui a été rasé de A à Z pour faire passer une autoroute, quoi. Donc,
votre film Detroiters débute d'ailleurs par les commentaires de personnages qui se souviennent de ce qu'étaient les parties qu'ils ont habitées.
Et c'est ça qui est hallucinant dans Détroit, c'est que c'est une ville remplie de fantômes, remplie, et tu traverses un espace qui est vide. Et moi, je voulais enregistrer la parole de gens qui étaient capables de te dire que sur cet endroit-là où toi, tu vois un gazon, et ben là, ils nous racontent un bar, et puis le bar d'à côté où il y avait des groupes de musique qui venaient répéter, et puis en face, il y avait un magasin, tu te souviens de... Et donc, tout d'un coup, toute une histoire reprend, et c'était un peu le principe que j'ai voulu pour ce film, de mettre en avant d'abord la parole des gens, de les écouter et de remonter le fil d'une histoire comme ça qui nous ramène sur cette génération qui a lutté pour les droits civiques. Quoi.
Une ville qui est tournée en hiver, avec des premières images, des plans très amples comme cette ville qui est très vaste, avec des arbres squelettiques, c'est normal, c'est l'hiver, mais qui donne aussi cette impression peut-être de désolation, des maisons assez disséminées. Vous aimez dire que vous n'êtes pas intéressé par l'esthétisation des friches ou des endroits délabrés, c'est pas ça le propos.
C'est pas ça le propos, et même il y avait beaucoup beaucoup d'images de Détroit qui ont été faites depuis la crise des subprimes, en fait, sur les ruines, il y a énormément de choses, et je trouvais qu'elles manquaient un point, ces images. Elles nous racontaient pas la vie des gens ou comment on est arrivé aux ruines, elles traçaient pas quelque chose d'un cheminement historique qui aboutit à ça. Et donc j'ai voulu me confronter à cette réalité qui est quand même la ruine, et que filmer une ruine, il y a quelque chose d'esthétique naturellement. Mais j'ai voulu le mettre en hiver. Après, c'était parce que pour moi, ça donnait quelque chose de crépusculaire et qui est en rapport avec cette génération-là, qui est au crépuscule de la vie et qui a un rapport à la mémoire aussi. Je trouvais que l'hiver créait une image comme ça qui t'envoyait vers le passé. Ça se rapproche du noir et blanc. Et du coup, on pouvait faire des transitions aussi sur des images d'archives qu'on a en noir et blanc que ces gens-là ont tourné dans les usines.
Avec, évidemment, il y a des images d'archives, mais sinon avec un rythme assez lent, je ne me suis pas du tout ennuyé, mais je pense que c'est une volonté aussi.
C'est une arriver à retranscrire ce double rythme, un peu qu'il y a à Détroit, qui est à la fois le rythme hyper speed de la musique, qui est hyper enjouée, qui est flamboyante, comme ça, et ce rythme contemporain d'un Détroit où les usines se sont arrêtées, les machines sont en pause. Et du coup, il ne reste plus que l'errance de la voiture. C'est comme si la voiture roulait toute seule, comme ça, dans cet espace vide. Et donc, de revenir, de juxtaposer ces deux rythmes.
Pour revenir à l'histoire de cette ville, alors, c'est une ville qui est devenue essentiellement noire au fil du siècle, dont les Blancs sont partis. Enfin, bon, il faudra voir le film, avec beaucoup de spéculations aussi immobilières. Parce qu'il y a eu une suite de crises qui ont fait que la ville s'est retrouvée comme ça en déclin.
Oui, on parle beaucoup des subprimes de 2008 parce que Détroit était l'épicentre la ville la plus spectaculaire de cette crise. Et cette crise nous a tous touchés, donc elle est importante. Mais en fait, à Détroit, c'était juste une marche en plus dans l'escalier qui descendait vers leur situation physique, quoi, de cette ville délabrée. Mais c'est la désindustrialisation. Et aussi... l'industrie de la voiture qui périclite après le premier choc pétrolier, et nous qui sortons de ce rêve de l'Amérique, c'est avoir une grosse voiture qui consomme des tonnes de carburant et que c'est ça la liberté. quand on se détache, nous, petit à petit, de ce rêve-là, bah, c'est Détroit aussi qui périclite, quelque part.
Et Détroit qui sera un terreau vraiment riche pour la musique. Là, on écoutait John Lee Hooker, mais bah, évidemment, c'est la ville de la Motown. Et pas seulement. Vous avez choisi Iggy Pop.
Ouais, moi, c'est mon petit panthéon personnel de Détroit, quoi. Et je trouve qu'il raconte quelque chose de cette ville aussi. Bah, bon, il y a des Noirs, mais il n'y a pas que des Noirs aussi. Il y a toutes ces vagues d'immigration. Et il a quelque chose d'irrévérencieux, de un peu majestueux comme ça, et de qui se laisse pas abattre. Et il y a ça à Détroit qui est très très fort quelque part. Comme si on avait été la plus grande ville au monde. Maintenant on l'est plus, mais on va pas chercher à revenir vers vous. On va rester. On est puissant. On est comme on est, et on va se construire nous-mêmes différemment. Et on va aller voir ailleurs en fait que de revenir dans la richesse totale. Et je trouvais que chez Iggy Pop il y a ça un peu un côté beau, quoi, beau et flamboyant.
Sur Nova, un Dirt des Stooges avec Iggy Pop. C'était en 1970 et c'est le choix de notre invité Andrei Shtaklev. Vous avez choisi ce morceau, ça a failli Dirt être le titre de votre film.
Oui, parce que dans la chanson, il dit qu'il a été Dirt. Ouais, donc c'est, il a été méchant peut-être, et il dit qu'il a un feu en lui qui brûle, et que, comme s'il y avait quelque chose qu'il n'arrivait pas à maîtriser, qui est une puissance vitale. Et je trouvais qu'il y avait ça à Détroit. C'était une ville détruite, il y a tout ça, les ruines et tout. Mais en même temps, il y a une puissance quand on y est. C'est incroyable, incroyable. Les gens, ils ne s'arrêtent pas, il se passe plein de choses. T'as envie d'y vivre, en fait, quand il y est. Et je trouvais que cette chanson, elle porte ça, une sorte un peu comme ça de d'énergie vitale qu'on ne peut pas maîtriser. Après, le terme était un peu dur et je pense que maman Sandra, elle n'aurait pas du tout aimé que j'appelle le film Dirt. Elle m'aurait cherché partout, donc on a été sur autre chose.
Quand on parle de Sandra, qui est hélas décédée il y a peu, Sandra, c'est l'une des protagonistes. Enfin, c'est une dame qui a existé réellement. Ce n'était pas une actrice et que vous avez approchée, interviewée, à laquelle vous êtes intéressée, qui est à la fois pasteur, ou je ne sais pas si on peut dire cela comme ça, et qui était aussi une des activistes d'une communauté noire américaine. De Détroit.
Oui, la première fois où j'ai été à Détroit, j'ai voulu habiter chez des gens pour pas être dans un hôtel, parce qu'on se retrouve dans des univers, on est isolé quand on est dans un hôtel, et on est tombé sur eux, et donc avec leurs photos de profil et tout, on s'est dit oh bah ils ont l'air super et tout, allons voir, et ça a été une aventure fantastique quoi, parce que quand je suis arrivé, elle a commencé par m'interroger pendant 6 heures. Et moi, je sortais de l'avion et du train, et un périple pas possible pour arriver jusqu'à Détroit, parce que c'est très enclavé, Détroit. Et pendant, elle savait que je venais pour faire un film, que j'avais pas de caméra avec moi, mais que je venais pour vivre à Détroit et puis écrire un film. Et du coup, elle m'a interrogé pendant 6 heures pour me dire « T'es qui ?»
Elle vous a mis à l'épreuve.
À l'épreuve, ah ouais. Et ça a été. Et moi, je venais pas pour la filmer, elle. J'avais pas cette idée-là. Mais elle m'a dit « T'es qui ? T'es un blanc ? Est-ce que tu viens nous voler quelque chose ?» Où est-ce que tu viens nous écouter ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux te payer un truc un peu ghetto et être cool comme ça ? Qu'est-ce que tu recherches ? Et là, moi, j'étais dérouté, quoi, parce que c'est vrai que c'est des questions, tu dis, elles vont arriver, ces questions, un jour ou l'autre, mais en rafale, comme ça, d'entrée de jeu, au premier pas posé à Détroit, tu dis, waouh ! Et en fait, c'était génial, parce qu'on a tout mis sur la table, elle m'a raconté beaucoup de choses, et on a commencé à comprendre qu'en fait, pour qu'on puisse faire pouvoir faire un film à Détroit, il fallait que je crée un espace commun avec les gens que je voudrais filmer, ou les gens qui voudraient être filmés, et qu'on construise quelque chose ensemble, parce que le pays américain est tellement divisé racialement qu'il fallait qu'on se crée une utopie, en fait, de dire c'est possible qu'il y ait un espace où on puisse vivre ensemble et avoir des projets ensemble et créer des choses ensemble. Donc il y a eu toute cette démarche, ça a duré pendant un an, je pense, avant que je revienne avec Romain et Tristan pour filmer le...
Oui, vous n'avez pas cherché à équilibrer les rencontres et dire « je dois aller chercher des blancs d'un côté, je dois... »
Non, voilà, ouais.
« Parler avec les noirs...
» Non, il n'y avait pas ça. Moi, je fonctionne, mais je pense depuis les tout premiers films, sur filmer les gens qui veulent bien être filmés. Aussi qu'il y a un désir un peu comme ça, réciproque. Alors des fois, t'insistes un peu parce qu'il y a quelqu'un qui te passionne et que t'as envie, mais c'est pas ce qui donne les meilleurs résultats. En plus, quand tu forces un peu, les gens des fois sont polis, ils acceptent, ils le font, mais c'est pas... Alors que quelqu'un qui vient vers toi... Donc toi, il faut que tu sois là, affiché. Moi, mon idée, c'était qu'on me connaisse dans Détroit, qu'on sait qu'il y a ce petit Français qui est arrivé, qui veut faire un film, et d'être disponible pour que les gens puissent venir me voir. Mais il y avait un peu plus de blanc, on peut dire, dans le projet au départ, parce qu'il y avait une communauté issue de Occupy Detroit, dont il ne reste qu'une personne, parce qu'en fait, ils ont été... Donc, ils ont rénové tout un quartier, à leurs frais, comme ça, et ça devenait un quartier très, très hype, où il y avait un bar, il y avait tout d'un coup des concerts, il se passait plein de choses. Du coup, la ville est arrivée avec les promoteurs, ils les ont fait dégager, ils ont récupéré les maisons. Et donc, au début du projet... Detroiters, eux, ils étaient encore actifs. Et quand on est venu pour tourner, ils venaient de se faire virer du truc. Et donc, on ne retrouve plus qu'un seul qui a récupéré une maison et qui a quelque chose d'assez triste. Où, justement, il n'a plus de communauté. Elle a été détruite. Et donc, voilà, il y a eu cet événement dans la fabrication du film qui a donné un équilibre comme ça. Mais effectivement, on ne fait pas un film en se disant il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela, et des petits ingrédients comme ça, c'est des rencontres et c'est des gens qui t'emportent, quoi.
Qu'est-ce qui vous a décidé à venir à Détroit, la musique ou...
je pense que la musique, ouais. Ouais, c'est clair. La musique a fait que Détroit, pour moi, est une ville mythique. Après, j'ai vécu aux États-Unis aussi, et j'étais très étonné que... Bon, alors moi, j'ai grandi dans les années 80, 90, on était américanisé à mort, quoi, tu vois. Donc, on avait des héros, mais... de la culture pop américaine, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noirs dans la culture pop américaine, tu vois, ces trucs. Mais même les Detroit Pistons, l'équipe de basket qui était championne dans les années 90, ils étaient méchants, ils agressaient tout le monde. Il y avait une image comme ça de Détroit géniale, quoi. Et quand j'ai été vivre aux États-Unis, j'étais très, très étonné de voir que la place des Afro-Américains, des Noirs, était très absente. Moi, j'en voyais pas beaucoup et j'ai été, et quelque part, un peu révolté. Je me suis dit, merde, j'ai envie de faire un truc. Et là, ça a connecté avec Détroit, se dire, bah, Détroit est peut-être la bonne place pour rendre hommage à toutes mes légendes personnelles d'enfance. Et après, de se dire, ce qui serait intéressant, c'est quand même de retrouver la génération qui a lutté pour les droits civiques et qui maintenant est assez âgée, et d'aller voir eux.
Et finalement, il y a un de vos protagonistes, enfin une des personnes que vous faites parler à un moment donné, qui fait une relation entre le travail à l'usine et puis la musique qui s'est développée. Quand, n'est-ce pas ?
Oui, pardon. Et c'était une... Moi, j'aurais rêvé de voir Détroit à l'époque, parce qu'il disait qu'on entendait le son des machines dans toute la ville.
C'est ça qui aurait donné la techno ?
Et alors, mais peut-être que la techno, ça, c'est quand ces machines se sont arrêtées et que ce son a disparu et que les enfants de ces ouvriers ont dit bah, « refaisons vivre ce son-là différemment ». Mais j'imagine que ça devait être obsédant dans la ville. On devait entendre le « tac, 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 tout, partout, partout, partout ». Et ça devait être dingue. Et puis le soir, tu étais dans des clubs, tu réentendais ça réinterprété en musique. Donc oui, ça a complètement infusé et les deux sont totalement liés. C'était le rythme d'une ville, en fait, quoi. De l'usine à la musique.
À une de grandes résistances que vous avez choisi également.
Bah oui, Underground Resistance, moi c'est mes légendes d'ado, c'est génial.
À l'instant, Underground Resistance de Detroit, choisi par le réalisateur documentariste Andrei Shtaklev. Qu'est-ce qui motive comme ça votre engagement ou votre orientation cinématographique ? Votre jeunesse ? Vos parents ? Qui avaient le poing levé ?
Oui, puis c'est peut-être aussi effectivement d'avoir grandi dans un bouillonnement comme ça, un peu en Algérie, après à Belleville, qui étaient des choses où beaucoup de choses se passaient, mais de vouloir revivre ça et de découvrir des lieux mythologiques. Donc les mines de Potosi, c'est légendaire aussi, Détroit, c'est légendaire. Calais, c'était une légende médiatique à ce moment-là. Mais là, je pense que je vais partir sur une fiction pour changer, mais qui sera vachement en écho à Detroiters, mais sur un western sur la fin de la colonisation française de l'Amérique et comment l'Amérique aurait pu être créée différemment s'ils n'avaient pas tué tout le monde pour prendre les terres.
Bien, merci beaucoup.
Merci.
On se dit à une prochaine fois.
Avec plaisir.
Et je conseille donc aux auditeurs et auditrices d'aller voir Detroiters. Au revoir.
Au revoir. Neo Geo.